Bonjour à tout le monde. Avec Marc, on est vraiment très content d'être là avec vous. On est content de voir les visages qu'on connaît déjà. Et on est vraiment heureux de voir qu'il y a plein de visages qu'on connaît pas encore. Qui dans cette salle a placé sa foi dans le Seigneur Jésus? Voilà, vous êtes des miracles. Vous êtes des miracles parce que c'est le Saint-Esprit qui vous a révélé l'existence de Dieu de manière surnaturelle. Amen. Et ce Saint-Esprit vit en nous. Ça, c'est le plus grand miracle quand il fait naître de nouveau. Aujourd'hui, nous allons voir dans le livre de Josué, chapitre 1. Et le titre de mon message, il n'y a pas de PowerPoint, mais si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre Josué chapitre 1. Et le titre du message, c'est « Au-delà de la peur ». Au début du livre de Josué, le peuple d'Israël est sur le point d'entrer dans quelque chose de nouveau. C'est le prophète Moïse qui avait été appelé par Dieu pour que le peuple d'Israël, premièrement, soit délivré de l'esclavage en Égypte et ensuite que ce peuple se forge une identité qui était basée sur la relation avec Dieu, une relation qui était exprimée dans le désert par leur obéissance à la loi de Dieu. C'est vrai, ça s'est passé dans le désert. C'était pas la volonté de Dieu que ça se passe dans le désert, mais c'est comme ça. Et donc, au début du livre de Josué, ce peuple d'Israël, qui s'est forgé une identité, ils sont sur le point d'entrer dans quelque chose de nouveau. Ils sont sur le point de prendre possession du pays que Dieu leur avait promis des années auparavant. Et ce texte, un biblique se situe donc à un moment très précis de l'histoire, c'est-à-dire il y a environ 3400 ans dans l'Antiquité. À ne pas confondre avec les événements terribles qui se passent au Moyen-Orient actuellement. Verset 1 dit, après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur. C'est vraiment ce moment précis de l'histoire. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué. Donc, les directives du livre de Josué s'adressent à Josué, passe par Josué. Et cette directive de Dieu, c'est maintenant. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux Israélites. Maintenant, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux Israélites. Donc, le livre de Josué nous raconte la fin, la finalité du long voyage d'Israël à travers tout le désert vers le pays promis. C'est dans ce livre-là qu'on voit Dieu accomplir sa promesse de donner le pays de Canaan aux descendants de Jacob, le petit-fils d'Abraham, Jacob que Dieu avait nommé Israël. C'est pour ça que nous lisons vers la fin du livre de Josué au chapitre 21 et verset 45. On lit « De toutes les bonnes paroles que le Seigneur avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes se réalisèrent. » Donc ici, à la fin du livre de Josué, c'est Dieu leur donne le pays. Et le peuple d'Israël, à ce moment-là, il est entré dans la promesse de Dieu. Et quel était réellement le but de cette promesse? Quel était réellement le désir de Dieu pour eux? On va le lire dans le verset précédent, Josué 21, verset 44. Le Seigneur leur accorda le repos de tous côtés, tout comme il avait juré à leur père. Donc le but, c'est le repos c'est la paix, c'est que le peuple vive paisiblement dans un pays fertile, qui connaisse, que le peuple connaisse Dieu et qui puisse jouir de sa bénédiction. Donc ça, c'est le contexte du livre de Josué. Alors, pour revenir au chapitre 1, le peuple est donc seulement sur le point de traverser le Jourdain afin de vivre la réalisation de ses promesses. Et, comme j'ai dit, que du chemin parcouru pour en arriver là. 40 années d'errance dans le désert. Il a fallu d'abord quitter l'Égypte et il a fallu ensuite que l'Égypte leur quitte. Ils ont dû à un moment donné surmonter la tentation de se débarrasser de Moïse et retourner en Égypte. Ah oui, ils voulaient à un moment donné retourner en Égypte parce que le souvenir de la bonne nourriture d'Égypte, les oignons, l'ail, les poireaux, ça les faisait oublier leur souffrance d'esclaves d'autrefois, les mauvais traitements dont ils avaient été victimes. Des fois, on a la mémoire un peu courte. Oui, c'était plus facile, en fait, pour eux, parfois, de regretter le passé, même difficile, que de prévoir un avenir meilleur. Parce que regretter le passé, c'est vivre dans la passivité, on ne bouge pas. Alors que se tourner vers l'avenir, ça demande de l'action, ça demande des efforts, ça demande un changement. Et le changement, c'est toujours souvent difficile. Pour certaines personnes, regretter le passé, ça peut même vouloir dire se sentir un peu mort à l'intérieur. Ou bien regretter le passé, ça peut être accompagné de sensations, de sentiments d'amertume. Ou le passé, ça peut ramener des souvenirs de culpabilité. Quel est, ce matin, ton Égypte que tu n'as pas encore quitté? Quelle chose, quelle expérience négative as-tu vécu dans le passé qui tient encore captif? C'est une question qu'on peut se poser chacun, chacune. Pour le peuple d'Israël, il leur a fallu 40 années d'errance, de murmures contre Dieu, contre Moïse, dans ce désert, pour apprendre deux choses. Ils ont appris, premièrement, à dépendre de Dieu, qui, malgré tout, leur pourvoyait à tous leurs besoins. À chaque fois qu'ils avaient besoin, Dieu était là pour pourvoir à leurs besoins, même dans le désert. Et ils ont appris aussi que la rébellion contre Dieu amenait aussi des jugements. Je vous encourage à lire le livre de l'Exode, et si vous l'avez jamais lu. Donc maintenant, là, ils sont face au Jourdain, et toutes leurs expériences passées, positives ou négatives, toutes les leçons, toutes les choses qu'ils ont apprises, doivent les aider à rentrer dans une nouvelle étape, dans un changement. Parce que Dieu ne les invite pas, en fait, à une promenade dans le parc. Il faut qu'ils aient bien intégré toutes ces choses, parce que la prochaine étape, c'est pas une promenade dans le parc. Dieu leur ordonne de se préparer sur le champ pour la conquête et pour la bataille. C'est le temps d'abandonner les murmures, la passivité, l'indécision. S'ils vont aller à la conquête, ils ne peuvent pas commencer à rentrer dans le pays et puis avoir peur et rentrer. Non, il faut qu'ils soient déterminés. C'est le temps, en fait, de surmonter leur peur. La peur et leur peur au pluriel. Parce que des années auparavant, ceux qui connaissent l'histoire vont se rappeler de ça, le peuple s'était déjà trouvé exactement au même endroit. En fait, il ne faut que 11 jours pour traverser ce désert à pied. Et à ce moment-là, Moïse avait envoyé 12 espions, des représentants des 12 tribus d'Israël, parce que il s'agit d'une responsabilité collective pour découvrir le pays. Alors 10 de ces espions sont rentrés complètement effrayés. Ils ont dit, mais non, il y a des géants qui vivent dans le pays, c'est pas possible, on a peur, c'est trop difficile, mieux vaut rester dans le désert. Le concept de prendre possession du pays, le concept, l'idée de participer à ce que Dieu fait, coopérer, collaborer avec lui, ça leur semblait impossible. Et il disait à Moïse, Nombre 13, verset 33, « Nous étions à nos propres yeux comme des criquets, et c'est ce que nous étions à leurs yeux. » Écoutez bien, « Nous étions à nos propres yeux comme des criquets. » Voilà, petit insecte qu'on peut facilement écraser. « Et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. » Non seulement ils souffrent d'un complexe d'infériorité, si on peut dire les choses comme ça, ils croyaient aussi lire dans les pensées des habitants du pays. Ils pensaient lire des choses négatives dans les pensées des autres. Et à ce moment-là, la peur les paralyse, ils sont coincés. Ils ne peuvent plus bouger. Et on peut voir dans tout cela certains schémas, voilà, qui s'appliquent parfois à nous, à nous-mêmes. Des fois, on peut tourner en rond parce que nous avons la nostalgie du passé, une sorte de sentiment doux, amer. Le passé semble mieux que le présent, parce que le présent présente des défis, des difficultés. Mais nous devons faire le deuil du passé. Dieu ne nous a pas donné le don de remonter dans le temps. Non, pas plus que le don de lire dans les pensées des autres, ce qui pourrait peut-être penser de moi. Non, ce n'est pas dans la liste des dons spirituels. Non. Donc, on fait le deuil du passé. Ou bien on dit, oui, parfois avec gratitude, parce qu'on a vécu des très bonnes choses. Mais voilà, le temps passe et nous, on accompagne, on est dans ce courant du temps qui passe. Peut-être que quelqu'un d'autre ou d'autres sont dans cet état de murmurer contre Dieu. Peut-être que quelqu'un est fâché avec Dieu, même carrément en rébellion. Et Dieu a créé un moyen merveilleux pour sortir de cet état. Ça s'appelle la repentance. Elle permet de changer d'attitude et de repartir à zéro. C'est merveilleux. On peut avoir des sentiments très négatifs vis-à-vis de Dieu. On peut faire du mal aux autres. Dieu nous donne la possibilité de nous repentir, repartir à zéro. Toujours. C'est jamais, voilà, c'est terminé, c'est fini pour de bon. Non, toujours possibilité de nous ressaisir devant lui parce qu'il nous aime. Peut-être que quelqu'un d'autre se sent chargé d'anxiété. Ça, c'est vraiment un des fléaux de notre monde aujourd'hui. C'est l'anxiété ressentie par les gens et qui peut être liée à la dépression aussi. On peut avoir l'impression que le monde est devenu un endroit vraiment effrayant et qu'on ferait mieux de rester chez nous, de fermer la porte et à peine sortir de chez nous. Mais la Bible dit que c'est dans la prière, c'est dans la supplication devant Dieu qu'il va pouvoir nous donner la paix intérieure qui nous aide à vivre sans anxiété dans ce monde. Donc si quelqu'un ce matin a mis son avenir sur pause, parce que la peur, l'anxiété, le paralyse, vous priez, cherchez la face de Dieu, en demandant la direction de Dieu pour qu'il puisse te remettre en marche Les 10 espions avaient appuyé sur le bouton pause concernant l'avenir de tout le peuple. Ils ont reculé, resté dans le désert. Moi, je me souviens qu'il y a 38 ans, j'ai failli ne pas venir en France pour mon année d'études. Je devais faire une année d'études à l'université Angers. J'ai failli ne pas venir parce que j'avais peur. J'avais peur de ne jamais pouvoir bien m'exprimer en français ou comprendre le français. J'avais peur de me trouver seule. J'avais peur de ne pas trouver une église et de perdre ma foi. Ça, c'était une grosse peur pour moi parce que j'étais une assez jeune convertie. J'avais peur donc de quitter, peur d'arriver, peur de rester. Toujours la peur. C'est ce qui me caractérisait à ce moment-là. Il a fallu vraiment que Dieu me parle, qu'il me communique une vision claire pour l'avenir, pour que je surmonte toute cette peur. Donc, la peur, c'est un sentiment normal face à l'inconnu. Dans certains cas, la peur est salutaire. Si on se trouve au bord d'une falaise, par exemple, la peur, elle est salutaire, mais elle a la capacité aussi de grossir et devenir vraiment, prendre une taille vraiment démesurée. Si tu montes dans ta voiture et que l'airbag se déploie accidentellement, voilà, tu verras rien devant tes yeux et tu pourras pas du tout avancer. Donc, l'airbag, il doit se servir uniquement en cas d'accident. Si, pas chaque fois qu'on monte dans la voiture, imaginez, on pourra jamais aller quelque part. Donc, seuls 2 espions sur les 12 envoyés par Moïse, Josué et Caleb, seuls eux ont vu les choses différemment. Ça, c'est dans Nombre 13, verset 30. Ils ont dit, montons et prenons possession du pays, nous serons vainqueurs. Même pas peur. C'est la peur de la majorité, malheureusement, qui a freiné le peuple d'Israël à ce moment-là. Oui, Josué et Caleb ont été freinés dans leur élan de foi et le peuple a été empêché de rentrer dans les promesses. Mais 40 ans après, c'est ces deux-là qui auront le privilège de conduire le peuple, la nouvelle génération, dans cette conquête du pays. La question pour nous ce matin, c'est quelle génération sommes-nous, quelle génération serons-nous? Celle du passé ou celle de l'avenir? Parce que le monde change autour de nous. La société se développe, il y a besoin de nouvelles réponses. Est-ce qu'on sera celle qui murmure toujours et encore, ou celle qui prie et obéit? Est-ce que nous serons celles qui tremblent de peur ou celles qui avancent vers la victoire? J'estime que j'espère que vous êtes d'accord avec moi, que c'est impossible de rester indifférent devant l'état de notre monde. Qui est indifférent? Non, personne. Il y a tant de gens autour de nous qui sont perdus et qui sont sans repère. Il y a tant de gens qui ont peur, peur de l'avenir, peur de manquer, peur de tomber malade, peur de la violence, peur des malédictions parfois, peur pour leurs enfants, peur pour leur couple, peur d'être seul, peur de s'engager et peur de leur propre faiblesse. Ils ont besoin d'un sauveur et nous connaissons ce sauveur. Le nom hébreu Josué, Yeshua ou Yehoshua, ça signifie Dieu sauve. Et en grec, Josué se dit Jésus. Yeshua, Josué, Dieu sauve, c'est Jésus en grec. C'est merveilleux. Il nous faut développer ou ranimer et puis garder, voilà, une mentalité de conquête. pas sur le plan militaire, bien sûr, mais ni de manière militante ou jugeant. Les gens du monde, c'est pas nos ennemis, mais dans la vision de l'Église, de Yeshua, Jésus-Christ, Jésus qui allait vers les gens avec discernement et bienveillance. Par exemple, comme Jésus avec la femme adultère qui avait peur d'être lapidée, ou Jésus avec Zachée qui avait peur d'être invisible et insignifiant pour toute sa vie. Zachée, c'était pas un homme alpha, comme on dit parfois. C'était un monsieur tout le monde, mais il était petit. Ou bien comme Jésus avec la femme samaritaine qui avait peur de jamais être aimée pour qui elle était. Donc, parler avec simplicité et authenticité autour de nous, de ce Dieu qui délivre de la peur, qui calme l'anxiété et qui communique son amour. Vraiment, la génération de croyants que nous sommes responsables envers la génération de non-croyants qui sont autour de nous. Il n'y a personne d'autre que nous pour leur annoncer la bonne nouvelle, pour partager avec nos amis, avec les personnes qu'on rencontre, avec cette douceur, avec cette bienveillance. Donc, on est toujours au début de chapitre 1 de Josué. Le peuple est toujours là, campé face au Jourdain, en train de réfléchir. Est-ce qu'on va y aller? Voilà ce que Josué nous dit. Ils sont en train de faire le point dans leur cœur. L'esclavage en Égypte, une existence sans perspective dans le désert, c'est pas des bonnes destinations pour eux. Leur destinée, c'est d'aller de l'avant, en surmontant la peur, sans surestimer la puissance de l'ennemi, comme ils ont fait la fois précédente, et sans exagérer leur propre faiblesse. On peut écraser un criquet, hein? Mais est-ce que vous avez vu dans des reportages, par exemple, ce qu'une armée de criquets peut faire? C'est impressionnant. Et donc c'est pour ça que Dieu exhorte très fortement Josué dans ce premier chapitre. Et je vous encourage de lire Josué chapitre 1 chez vous. Donc Josué, il a besoin d'un mandat fort pour conduire tout le peuple au-delà de la peur. D'abord, Dieu donne cette directive claire que nous avons déjà lu, « Maintenant passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, vers le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que vos pieds fouleront, je vous l'ai donné, comme j'ai dit à Moïse. » Donc Dieu veut mobiliser le peuple tout entier. C'est le moment. Et à nous, à la génération que nous sommes, Yeshua Jésus dit, Matthieu 28, versets 18 à 20, « Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus envoie ses disciples en mission dans le but de faire d'autres disciples. Et nous dépendons toujours de cette directive-là, la Grande Commission. Ensuite, Dieu encourage Josué et Dieu rassure Josué. Chapitre 1, verset 5b, il dit, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te le délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. » C'est la présence de Dieu avec le peuple qui lui donne confiance et qui assure la victoire. Et à nous, notre génération, Yeshua Jésus dit, dans Matthieu 28, verset 18 à 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il nous fait cette même promesse. « Je suis avec vous. » Ensuite, Dieu demande l'obéissance à Josué. Josué 1, versets 7 à 8. Veillez à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Il parle de la loi, cette loi de l'ancienne alliance que Dieu a donnée à travers Moïse. Donc vraiment le socle du mandat de Josué, c'est la loi de Dieu. L'enjeu ici, c'est pas qu'un pays va prendre possession du territoire d'un autre pays. C'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce que Dieu veut faire, c'est établir un peuple qui le connaît et qui obéit à sa loi, afin d'être une lumière parmi toutes les autres nations. Les autres nations adorent des faux dieux. Ils pratiquaient, par exemple, la prostitution sacrée dans leur temple. Ils allaient parfois jusqu'à sacrifier des enfants dans leur rituel. Ils s'adonnaient à la sorcellerie et les puissances ténébreuses étaient cachées derrière ces idoles. Et c'était une religion, des religions de peur et de crainte. Les gens étaient dominés par la peur. Dieu veut mettre fin à ça. Donc le véritable but de la conquête de Canaan, c'est la justice et la gloire sur la terre, visible à travers son peuple. Et de même, à notre génération, Yeshua Jésus dit, Matthieu 28, 18 à 20, « Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. » C'est la mise en pratique de l'enseignement de Jésus, c'est vraiment le centre, c'est le focus de notre mission. Nous disons dans Jean 13, versets 34 et 35, voilà, je suis obligée de citer tous les versets parce qu'il n'y a pas le PowerPoint. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. C'est le grand commandement. Et donc, la grande commission d'aller, ça sert à rien sans le grand commandement. Ils vont main dans la main. Et finalement, dans le premier chapitre de Josué, nous avons ces exhortations très fortes. Dieu exhorte Josué à aller au-delà de la peur, au-delà de toute hésitation. Le verset 6, « Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme patrimoine le pays que j'ai juré de leur père de leur donner. Seulement, sois fort et courageux. » Pendant ces 40 années d'errance dans le désert, sans doute que la situation en Canaan s'était empirée. Les villes telles que Jéricho, ils s'étaient fortifiées. Ils avaient élevé des murailles toujours plus hautes et toujours plus fortes. Et les habitants s'étaient ancrés de plus en plus profondément dans leur pratique païen, dans la crainte devant leur Dieu. Ils avaient multiplié le nombre de leurs idoles et les villes étaient devenues des petites cités-états indépendants, souvent en guerre entre eux. Ils menaient des raids les uns contre les autres. Alors Dieu, il multiplie les exhortations, sois fort, sois courageux. Le verset 9 aussi, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux, ne t'effraie pas. Ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. C'est vraiment le refrain qui revient dans tout ce chapitre. Sois fort et courageux. Dieu fortifie et encourage son conducteur désigné. Et Josué, il transmet tellement bien ce message qu'il a reçu la part de Dieu, qu'après le peuple lui-même se met à encourager Josué aussi. Ils disent à Josué, sois fort et courageux, au verset 18. Le peuple lui-même se met à encourager leur leader. Josué avait été témoin de leur murmure, de leur contestation envers Moïse. Pas facile d'endosser la conduite d'un peuple qui va murmurer ou contester. Donc il avait certainement besoin de cet encouragement, l'encouragement de la part de Dieu, mais aussi l'encouragement du peuple. La confiance en fait a gagné tout le peuple. Et ils étaient prêts à suivre Josué, à passer le Jourdain. Égypte est enfin sortie de leur cœur. Ils ont adopté une mentalité de courage et d'encouragement. C'est tellement important. On ne peut rien faire sans courage et on a tous besoin d'encouragement. Qui a besoin d'encouragement? Nous tous, tout le monde, tout le monde. Et cette fois, le peuple surmonte leur peur et ils partent à la conquête du pays. Donc Jésus lui-même, il est l'exemple suprême de force et de courage. Ses disciples avaient essayé de le dissuader. Vous vous souvenez peut-être de cela. Il voulait pas que Jésus monte à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Jésus, enfin, c'est d'ailleurs, c'est la fête, justement, qui célèbre la sortie d'Égypte. Donc, les disciples de Jésus, ils savaient que c'était dangereux. Ils savaient que Jésus risquait d'être arrêté. Ils savaient que aussi, s'ils étaient compagnons de Jésus, ils risquaient d'être arrêtés avec Jésus. Ils avaient raison. Mais ils étaient tellement loin de penser que Jésus allait devenir la Pâque. Ils n'allaient pas simplement célébrer la Pâque, mais Jésus allait devenir la Pâque. Pourtant, Jean-Baptiste avait prophétisé sur lui, dès le début de son ministère, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus lui-même avait enseigné ses disciples. Matthieu 16, verset 21, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et se réveiller le troisième jour. Il dévoile tout le plan. Ils vont pas le comprendre tout de suite. Alors Jésus, il faisait vraiment preuve de force et de courage quand il a refusé d'écouter l'avis de ses disciples qui disaient non. C'est trop dangereux d'aller à Jérusalem. Et quelques heures avant son arrestation, oui. Jésus a demandé à ses disciples de prier pour lui. Jésus, il n'a fait que prier. Il a dit, j'ai besoin que vous priez pour moi. Mais le texte dit, à ce moment-là, que Jésus, il est tellement éprouvé que sa sueur devient comme des gouttes de sang qui coulent sur son visage et qui tombent à terre. Je me suis demandé, c'est une spéculation, si Jésus a pu vomir de peur. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu une sensation de nausée, s'il a été dans une situation de peur. Moi, quand j'étais enceinte, j'ai souffert de fortes nausées, pas de peur. Mais c'était la condition. Et un jour, j'ai vomi si violemment que des dizaines de taches de sang sont apparues partout sur mon visage. Et j'ai couru chez ma gynécologue pour dire, regardez. Et elle me dit, mais non, c'est pas grave. Ça va partir. Et c'est parti. Donc, voilà. Je pense que la Bible n'est pas en train d'exagérer quand elle parle de ce que Jésus a pu vivre à ce moment-là. Il était le Fils de Dieu. Il était divin. Il était éternel. Mais Il s'est incarné en homme et il a dû affronter la mort à la croix dans son humanité en tant qu'homme, comme nous. Et son recours pour trouver la force et le courage face à la torture et une mort atroce, c'était la prière, comme nous pouvons faire. Et à travers ses supplications, cette intercession tellement intense, il a surmonté la peur, il a accepté de souffrir pour le salut de l'humanité. Josué, dans le livre de Josué, il est un type du Christ conquérant, parce qu'à la croix, Jésus a affronté les puissances des ténèbres, il a vaincu le péché et la mort, et il a fait pour nous libérer de l'esclavage du péché et de la peur de la mort. Il a payé le prix pour que tous ceux qui se repentent soient pardonnés et réconciliés avec Dieu le Père. C'est vraiment énorme. Et je crois qu'il y a un souffle prophétique que nous trouvons dans Josué 1, verset 11, quand nous lisons « Préparez-vous des provisions ». Car dans 3 jours, vous passez ce Jourdain pour aller prendre possession du pays que le Seigneur votre Dieu vous donne. Jésus a été crucifié, mis dans un tombeau, mais le 3e jour, il est ressuscité. Amen. Et nous passons le Jourdain avec lui en acceptant son salut et en passant par les eaux du baptême. Et toutes nos provisions, toutes nos ressources sont en lui. Donc, puisque Jésus a vaincu les puissances des ténèbres, nous n'avons plus rien à craindre de leur part. On n'a rien à craindre de la part des idoles, on n'a rien à craindre de la part des faux dieux, nous n'avons rien à craindre de la part de ceux qui pratiquent la sorcellerie. Même si quelqu'un voulait nous viser, on n'a rien à craindre de la part de ça. Jésus déclare, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Allez, nous allons avec sa protection. Et par la prière, le Saint-Esprit vit en nous. Il nous délivre de la peur. Il nous rend courageux. Il ranime notre espoir. Il nous donne une vie abondante. Romains 8, verset 16 dit, l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il veut nous donner un sentiment de sécurité. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, et il nous donne non pas un royaume terrestre, mais le repos spirituel, parce que ce qu'on accomplit pour Dieu, c'est pas nous qui l'accomplissons, c'est Dieu avec nous, c'est Dieu à travers nous. Il nous envoie, voilà, une génération nouvelle pour faire de nouveaux disciples. Donc, qui ce matin est prêt à passer le Jourdain à la suite de Yeshua, Josué, Jésus-Christ? Amen.